Je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes, un moment précieux dans ta présence, un moment où nous répandons nos cœurs devant toi, un moment où nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli pour nous et ce que tu gardes encore en réserve pour nous. Merci aussi parce que ta parole est là pour nous nourrir spirituellement, pour nous rendre forts spirituellement, afin que nous puissions résister contre toutes les manœuvres de l'ennemi. Seigneur, je te remercie parce que tu permets que cette parole soit encore proclamée librement dans ce pays. Laisse que, Seigneur, cette parole puisse toucher des vies, toucher des cœurs. Ceux qui vont écouter ce matin, ceux qui vont écouter par la voix des ondes, touche-les, Seigneur, afin que leur vie change. C'est ce que tu veux, Seigneur. Ta parole est là pour changer nos vies. Ta parole est là pour nous nourrir et nous donner une force nouvelle, pour continuer à nous battre contre toutes les œuvres des ténèbres et que nous puissions sortir victorieux grâce à ta parole, grâce à la puissance de ton Saint-Esprit. Oh, merci de bénir ce moment au nom de Jésus. Amen. On reste debout et je vais lire quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Leur préoccupation était ailleurs, complètement ailleurs. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça veut dire que sans cette puissance, il est impossible d'être des bons témoins de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous pouvons faire des efforts comme nous voulons. Nous pouvons nous exercer avec toutes sortes de moyens, de possibilités, croyant que nous sommes en mesure de faire quelque chose d'utile pour l'œuvre de Dieu, mais nous ne pouvons rien par nos propres forces. Nous ne pouvons rien du tout, même avec tous les exercices du monde. Mais nous avons besoin d'être revêtus de puissance. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit, pour aller jusqu'au bout de notre mission. Chacun de nous a une mission à accomplir sur terre. On n'est pas ici par hasard. Il y a une mission que nous sommes venus accomplir. Et pour que nous puissions accomplir cette mission, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a souvent été mis de côté, écoutez dans le langage des gens, même les enfants de Dieu, quand nous parlons entre nous, on parle de Jésus, on parle il y a même dans certaines religions, on parle de Marie, on parle des saints, on parle des cieux, on parle de ça, mais c'est peu de gens qui mettent l'accent sur le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut, c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut en ce moment. C'est le Saint-Esprit qu'il nous faut pour que nous puissions résister contre les œuvres des ténèbres. L'ennemi, lui, il travaille pour arrêter l'Église. L'ennemi, lui, travaille pour nuire à l'Église. Mais le Saint-Esprit est là pour fortifier l'Église. Le Saint-Esprit est là pour encourager l'Église. Le Saint-Esprit est là pour instruire l'Église, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Parce que la tâche qui nous attend est immense. On dit qu'il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il est vrai que ce n'est pas nous qui irons nécessairement dessus, c'est chacun là où il est, il va parler. Mais maintenant, nous avons même des moyens extraordinaires. Avec les télécommunications aujourd'hui, je suis ici, quelqu'un peut me suivre au fin fond de l'Inde, au fin fond de la Russie, quelqu'un peut me suivre. Donc nous avons tous les moyens pour que nous puissions atteindre jusque les extrémités de la terre et que la bonne nouvelle de l'Évangile puisse être annoncée. Mais nous avons besoin d'être des vrais témoins. Pas juste des gens qu'on envoie, Il y a des gens qui acceptent d'être envoyés, mais qui ne jouent pas leur rôle. Mais nous sommes envoyés avec une mission bien déterminée, et il faut que nous puissions l'assumer pleinement. Donc, pour cela, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. C'est le titre du message. L'assistance du Saint-Esprit. Elle est capitale. Nous croyons que nous sommes capables. Nous croyons que nous pouvons. Je peux, je suis, je puis, je... Mais nous ne pouvons rien par nous-mêmes si le Saint-Esprit ne vient à notre secours. Si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut, la Bible parle beaucoup de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, dans de nombreuses circonstances. Je vais juste énumérer quelques circonstances où on parle de l'Esprit de Dieu, comment il agit. Je suis allé chercher, jusque dans l'Ancien Testament, je suis allé dans le livre de Zacharie, au moment où les exilés reviennent de Babylone. Quand ils reviennent de Babylone, mais il y avait une tâche importante qui les attendait. Nous lisons dans Zacharie 4, le verset 6. Alors, c'est l'ange qui parlait donc à Zacharie. Alors, il reprit et me dit, et dit à Zacharie, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Même avant la Pentecôte, c'est par l'Esprit de Dieu que les choses arrivent. Le sacrificateur Zacharie a eu une vision, en fait, et dans cette vision, Dieu lui annonçait comment les choses allaient se passer pour la reconstruction du temple, pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Le peuple revenait, le peuple commençait une œuvre, se fatiguait, etc. Mais il montre que, vous savez, vous pouvez commencer, vous pouvez croire que vous êtes nombreux, vous êtes équipés pour faire le travail, mais il dit ce n'est pas ni par votre force, ni par votre puissance que vous pouvez y arriver, mais c'est par mon esprit. Le sacrificateur Zorobabel, donc, conduisait le premier contingent qui est revenu de Babylone, et c'est à lui qu'on adresse cette parole. Un message à Zorobabel pour l'encourager dans cette œuvre gigantesque qu'il attendait, donc de reconstruire le temple et les murailles de Jérusalem. Mais Dieu lui dit que les capacités dont il a besoin ne peuvent pas être humaines et ne suffiraient pas pour faire cette œuvre, parce qu'il y a de l'opposition. Mais les capacités dont ils ont besoin, c'est la capacité qui est renforcée par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église a besoin pour continuer à opérer dans ce monde. On est tellement combattu. On est tellement combattu. Les gouvernements, les ci, les ça, etc., font tout pour mettre des freins, des barrières aux églises pour qu'elles accomplissent leur mission. L'Église a besoin, pour pouvoir continuer à opérer sans relâche, l'Église a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est lui qui va faire la différence. Dans le Nouveau Testament, même pour la naissance de Jésus, Marie, quand elle a été visitée par l'ange, dans Luc, chapitre 1er, le verset 34, Marie dit à l'ange, comment ? Il lui annonce qu'il va être enceinte et va porter un enfant. Il dit, mais comment cela se fera-t-il ? Il dit, comment cela se fera-t-il ? Verset 34, puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras revêtu de la puissance d'en haut et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Dans l'autre évangile de Matthieu, il s'est dit autrement. Ici, c'est sa part de Joseph. Joseph qui apprend la nouvelle que sa femme est enceinte, il dit, oh là, mais il était gentil cet homme parce que c'est Dieu qui l'avait touché, il aurait pu dire non, rupture immédiate, et puis je vais dire à ta famille, je vais dire partout. Comme Joseph pensait, qu'est-ce qui va se passer maintenant que ma femme est enceinte alors que je ne l'ai pas connue, je ne l'ai même pas encore prise pour femme, il dit, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe, Matthieu 1, 20, et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, une œuvre extraordinaire qui dépasse l'entendement humain. Concevoir sans avoir eu de contact avec son mari, et c'était un problème. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, bien longtemps à l'avance, plus de 700 ans à l'avance, dit, voici, verset 23, la Vierge sera enceinte. Ça n'arrive pas souvent. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre de fois où des vierges sont devenues enceintes sans avoir eu de mari. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le miracle du Saint-Esprit, c'est qu'un enfant va naître d'une jeune fille vierge par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, comme l'avait annoncé Ésaïe au chapitre 7. Maintenant, Jésus a grandi. Jésus doit commencer son ministère, l'Esprit l'amène dans le désert où il va être tenté, etc., pendant un temps. Et quand il revient au Luc chapitre 4, au début de son ministère, Jésus revient, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Est-ce qu'il n'avait pas l'Esprit avant? Il avait l'Esprit de Dieu, amen. Il avait l'Esprit de Dieu, mais il était revêtu. En plus de tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il pouvait faire, il était revêtu d'une puissance surnaturelle et retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Ça veut dire que sa renommée ne pouvait pas se répandre avant qu'il ne soit revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Sa renommée ne pouvait pas se répandre et il s'est répandu dans tout le pays, d'alentour, parce que l'Esprit était sur lui pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'il a dit lui-même plus tard. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades, pour délivrer ceux qui sont possédés par les mauvais esprits. Et effectivement, ce qu'il a dit est arrivé beaucoup plus loin. Dans Luc 4, verset 35, il commandait, on nous dit qu'il commandait avec autorité et puissance aux esprits impurs de sortir des gens. Il commandait, parce qu'il était revêtu de cette puissance de l'Esprit, il commandait aux esprits de sortir des gens. C'est cette même puissance du Saint-Esprit qui a fait qu'il guérissait les malades. Versets 39 et 40, il guérit la belle-mère de Pierre d'une violente fièvre. Il imposa les mains aux malades qui se présentaient à lui et ils furent guéris. La puissance du Saint-Esprit. Alors vous imaginez que dans une église et dans ce monde, tout simplement, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a des malades autour de nous. Nous n'avons pas de pouvoir de guérir les malades par nous-mêmes. Nous prions, mais le Seigneur nous dit aussi d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, pas par notre puissance, pas par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit dont nous sommes revêtus. Donc il faut que nous soyons revêtus de cette puissance pour que cela puisse arriver. Quand nous recevons Christ dans notre vie, l'Esprit vient habiter en nous. Amen. Mais il y a une autre expérience qui arrive, qui doit arriver dans la vie des enfants de Dieu, qui n'arrive pas souvent. C'est ce baptême du Saint-Esprit qui vient faire toute la différence. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, il guérissait les malades, il a guéri, il a imposé les mains aux malades, ils furent guéris. Il a guéri le serviteur d'un centenier, celui qui avait bâti la synagogue, chapitre 7, il les ressuscita. Il est en train de passer et puis il voit une veuve qui est en train de conduire son fils, la veuve de Naïn, qui est en train de conduire son fils pour l'enterrer dans un cercueil, etc. Et il a posé juste la main dessus. Et cet enfant est ressuscité, il a sorti de là et puis l'enfant est ressuscité. Il a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, même cet enfant qui était mort, qu'on conduisait. Vous vous rendez compte de ce que ça peut faire à cette famille désespérée. Une veuve était démunie en Israël. Une veuve n'avait pas de moyens. Elle comptait peut-être sur son fils. Peut-être c'était le fils unique et il est mort. Et c'est triste, mais de voir ce que le Seigneur a fait, et ça va l'avoir boosté. Il a fait son ministère, il était revêtu du Saint-Esprit, il a eu une renommée qui s'est étendue un peu partout. Maintenant, j'arrive après la mort, je suis en train de prendre des versets donc, dans la Bible, après la mort de Jésus-Christ et après sa résurrection, juste après sa résurrection et avant de monter au ciel, il est apparu à ses disciples. Il leur dit au chapitre 24 de Luc toujours, Luc 24, verset 49, il leur dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Dans Joël, depuis longtemps, il avait promis que j'enverrai mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Peut-être qu'eux pouvaient dire, maintenant qu'il est ressuscité, on l'a revu, on était désespérés, mais comme on l'a vu, alors on va continuer l'œuvre, on va commencer à sortir et dire, attendez, Attendez d'être revêtu, parce que vous risquez d'être, vous cognez contre le mur, vous rencontrez l'opposition, vous ne serez pas en mesure de résister, vous ne serez pas en mesure de faire face à tout ce qui vous attend dehors. Mais quand vous êtes revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, là vous pouvez faire le travail pour lequel je vous envoie. Donc attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut. Et dans le livre des Actes, il dit la suite. Quand vous êtes revêtu, ainsi vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, comme nous l'avons lu tout à l'heure, jusque aux extrémités de la terre. Voilà ce qu'apporte le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce qu'apporte en plus le baptême du Saint-Esprit, en plus de toutes les autres bénédictions que Dieu apporte dans nos vies, mais on a besoin de ce baptême du Saint-Esprit pour faire la différence dans ce monde. On peut être le plus gentil, on peut, oui, on va toucher des gens par-ci, par-là, mais il y a des situations qui ne sont inextricables sans l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies pour nous équiper, pour nous donner les moyens de faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Donc, Jésus leur apparaît, et ils étaient encore enfermés dans la chambre haute, peureux évidemment, en disant, qu'est-ce que nous allons devenir maintenant que celui que nous avons appuyé pendant 3 ans de ministère, il est mort, on va venir nous saccager ici. Pendant qu'ils avaient peur, il leur apparaît pour les rassurer, mais il leur dit, continuez à prier, restez dans la maison, priez en attendant ce moment, etc. Et c'est arrivé comme dans quelques jours, près de 50 jours après la Pâque. Donc, c'est arrivé. Mais il persévérait pendant ce temps dans la prière. Dans l'attente, on ne croise pas les bras. Dans l'attente que le Seigneur intervienne dans nos vies, on ne croise pas les bras. Dans l'attente qu'il intervienne dans nos vies, nous restons en prière en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sans quoi, il risquait donc de tourner en rond. Et c'est comme ça que beaucoup commencent, ils commencent une œuvre dans la précipitation, et puis ils tournent en rond, ils ne voient pas de résultats, ils ne voient pas de fruits, et ils vivent de l'opposition qui est devant eux, ils ne sont pas capables de faire face à ça, parce que si vous n'êtes pas accompagné de cette puissance d'en haut, mais vous n'aurez pas l'impact que vous devez avoir dans votre ministère. Mais dès que le Saint-Esprit est survenu sur eux, dès qu'ils ont été revêtus de cette puissance surnaturelle, la Bible dit que partout où ils passaient, on les appelait des gens qui ont bouleverser le monde. Vous vous rendez compte? Des gens qui s'étaient retirés, qui s'étaient enfermés, aussitôt qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et qu'ils sortent, et nous voyons ce qui s'est passé, quand l'apôtre Pierre a ouvert saintement la bouche, premier discours qu'il a fait, ça a été un discours qui a polarisé les gens, embraser les gens, l'assistance, il a eu un impact extraordinaire. Donc c'est des gens qui ont, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, de cette puissance qui était en eux, ils ont bouleversé le monde de l'époque, et ce fut le point de départ, le point d'un mouvement qui, de l'Esprit, qui s'est étendu jusqu'à nous et qui va se poursuivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Personne ne peut empêcher l'action du Saint-Esprit, personne. Il y a un plan que Dieu a pour ce monde, et ce plan se réalisera comme Dieu l'a prévu. Personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Donc, le mouvement du Saint-Esprit qui a commencé à la Pentecôte va se poursuivre. Il se poursuit encore ce matin. Il se poursuit dans toutes les églises chrétiennes dans le monde aujourd'hui. Et il se poursuit jusqu'au retour de Jésus-Christ. Au 19e siècle, il y a eu un homme de Dieu, Charles Finney, c'est un évangéliste connu, etc., mais il était revêtu du Saint-Esprit et il a marqué son temps. Et c'est ça. Quand quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, il marque son temps. Par où il passe, il laisse une belle histoire, il laisse des bons témoignages, il laisse un impact. On parlera de son passage à tel endroit, parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Charles Finney était de cela. Il était revêtu du Saint-Esprit et il a marqué son temps. La Bible dit que quand il passait, il ne faisait que passer dans les rues. Ce n'est pas souvent que ça arrive. Il passait dans les rues, l'esprit de repentance saisissait les gens. Ce n'est pas qu'il les arrêtait et dit, mais venez, je vais imposer mes mains sur vous. Non, lui ne fait que passer. Mais là où il passe, Les gens sont saisis par un esprit de repentance, ils commencent à pleurer sur leurs péchés, leur cœur était rempli de ce besoin de se repentir parce qu'ils étaient revêtus de cette puissance. Ce n'est pas lui qui faisait ça, c'est l'esprit qui était en lui qui faisait, qui touchait les gens à cette époque là-bas. Donc, il allait dans une usine, il passe dans une usine et tous les ouvriers, chacun est à sa job, etc. Mais tout s'arrête là et puis on commence, il regarde à côté, il regarde, oh, il commence à pleurer. L'autre là, il commence à pleurer. Mais le patron vient voir, c'est quoi? Lui aussi, il est pris dans le revêtement. Maintenant, il y a des gens qui réduisent l'œuvre du Saint-Esprit à un spectacle. C'est pas un spectacle. Les hommes, des pères de famille, ne se mettent pas à pleurer tout d'un coup comme ça. Ils sont saisis par plus fort que eux. Plus fort que eux. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et c'est pour ça que la Bible, c'est lui qui convainc le pécheur d'être pécheur. C'est le Saint-Esprit. Nous pouvons utiliser toutes les paroles du monde. Nous pouvons utiliser les meilleurs discours du monde. Nous l'avons déjà essayé, convaincre nos familles. Des fois, on veut le faire par la force. On croit qu'en utilisant cette formule, ils vont mieux comprendre des choses. Ça ne donne rien. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et le Saint-Esprit convaincra dans la mesure où nous avons prié, nous nous sommes mis devant le Seigneur, et que dans la mesure où nous parlons, nous ouvrons la bouche, le Saint-Esprit accompagne cela de puissance, et ça va toucher les cœurs des gens, et c'est là que les gens donnent leur vie au Seigneur, et c'est là que les gens se repentent et regrettent leur péché. Lui, il passait dans les usines, on dit même dans un train, il passait, c'était pareil. Les gens étaient saisis par le Saint-Esprit, et le besoin de repentance remplissait leur cœur. Ça, c'est un mouvement de l'esprit qui a été à la base d'un grand réveil aux États-Unis et puis qui a atteint un peu partout dans le monde. On aimerait tous vivre un tel exemple. Moi, le premier, j'aimerais vivre ça. Pas pour moi, pas pour qu'on dise « Oh, avez-vous vu ?» Il passait seulement dans les rues de l'Assomption et tout le monde s'est repenti. Non, souvent c'est le cas. Souvent, c'est le cas. Malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui veulent prendre ça à leur compte. Ils veulent prendre ça à leur crédit. Moi, j'ai l'onction. Moi, je suis capable. Tu n'es capable de rien. Rien. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Et ce serait malhonnête de présenter aux gens comme si c'est toi qui le fais. C'est le Saint-Esprit. Quand il le fait, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous souhaitons que ces choses nous arrivent aussi. Nous le souhaitons et nous prions pour, et nous sommes disposés et disponibles. Ce matin, je voudrais vraiment parler de la nécessité d'être assisté par le Saint-Esprit, de la nécessité d'être équipé par le Saint-Esprit. Je voudrais parler de la nécessité d'être revêtu du Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir efficacement la mission qui nous a été assignée. Mais la vérité aussi, tout en disant cela, la vérité aussi, c'est que beaucoup de chrétiens, et peut-être même ce matin au milieu de nous, sont inconfortables. Inconfortables quand on commence à parler du Saint-Esprit. Et c'est triste. Je trouve ça vraiment triste. Quand on sait la mission du Saint-Esprit, je trouve ça triste que des chrétiens soient inconfortables juste le fait qu'on soulève le palais du Saint-Esprit. Et ce n'est pas étonnant que quand on a mis le Saint-Esprit dans une boîte quelque part, mais il ne porte pas de fruits. On ne porte pas de fruits. On est un bon chrétien, on vient dimanche à l'église, on chante, on fait tout ce qu'on veut, mais si on n'est pas soumis, si on n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit pour que lui te dirige, et dans le choix des chants, et dans le choix des prédications, et dans le choix des... Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas commettre des erreurs. Des chrétiens qui ne veulent pas croire que c'est le Saint-Esprit qui a fait progresser l'Église primitive. On en parle depuis, je ne sais pas, trois semaines, c'est Cédric qui a commencé, il dit, où es-tu l'Église d'Actes des Apôtres? Quand on regarde aujourd'hui, comparé à l'Église des Actes des Apôtres, est-ce que nous allons dire que vraiment nous cheminons comme eux cheminaient? Mais pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Saint-Esprit. Revenons au baptême du Saint-Esprit qui est capital. Et nous n'avons pas à être inconfortables à cause de cela. C'est la parole de Dieu. Nous croyons en cette Bible d'un couvert à l'autre. D'un couvert à l'autre. Alors, ce qui est dit là-dedans, ce qui a été fait, qui a produit des fruits dans l'Église primitive, c'est capable de produire des fruits aussi dans notre Église, dans ce 21e siècle finissant. Que le Seigneur nous aide vraiment à y arriver. Donc, le Saint-Esprit est important parce que c'est lui qui équipe les croyants. Nous venons au Seigneur, nous sommes comme des enfants qui viennent de naître. Nous sommes comme des enfants qui viennent, qui commencent au lait maternel, qui doivent grandir, etc. Mais il doit arriver un moment où nous devenons comme autonomes. Autonomes, c'est-à-dire ne dépendant plus des gens qui nous tiennent par la main à gauche, à droite, mais nous dépendons du Saint-Esprit qui, lui, maintenant, dirige notre vie, qui nous parle. Et je vais vous montrer que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Mais ce qui manque, c'est que nous n'écoutons pas ou alors nous n'obéissons pas à la voix du Saint-Esprit. Il nous parle parce qu'il veut diriger nos vies. On a parlé de nous guider. Oui, le Saint-Esprit veut nous guider, mais nous n'écoutons pas. Nous ne voulons pas obéir à la voix du Saint-Esprit et on a des problèmes à cause de cela. Amen. Nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit comme un partenaire. Nous devons veiller à ne pas éteindre l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il veut travailler, il veut nous relever, il veut nous amener à une nouvelle dimension. Mais nous freinons l'œuvre du Saint-Esprit. Et moi, je me dis que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne force rien. Il ne force rien. Tu ne veux pas, tu n'es pas prêt, mais il passe. Amen. Mais j'espère que ce matin, nous allons partir d'ici avec une détermination nouvelle. Donc, je disais que le Saint-Esprit parle. Mais il parle et il faut qu'on l'écoute, parce qu'il est la source de toute inspiration. Il est la source de toute inspiration. Il nous conseille, la Bible dit dans le psaume 32, il nous conseille, il nous instruit, et il nous montre le chemin à suivre. Mais il peut te montrer le chemin à suivre, mais si tu ne veux pas suivre ce chemin, tu vas suivre un autre chemin, et tu vas aller tomber dans un trou. Mais il t'a montré, il t'a conseillé, il t'a instruit, mais à toi de obéir. Mais on ne veut pas obéir, on veut faire sa propre volonté. Donc le Saint-Esprit parle, il nous conseille, il nous instruit. Regardez l'histoire de l'apôtre Pierre quand il a dû aller dans la maison de Corneille. Corneille, c'était un étranger. Corneille, c'était considéré comme des païens aux yeux des Juifs. On ne pouvait pas se tenir ensemble. Mais c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre le sens d'une vision qu'il avait eue, cette vision avec des animaux de toutes sortes qui se tenaient ensemble dans un... Et il a eu l'explication, il est allé, parce qu'il a eu l'explication, il est allé chez Corneille. Dieu est celui qui fait concorder, concourir les circonstances au même moment. Pendant que lui est en prière, il voit cette vision. De l'autre côté, Corneille aussi est en prière, et il dit qu'il faut envoyer des gens pour aller chercher Pierre. Dieu arrange les circonstances. Le Saint-Esprit parle et il faut que nous puissions obéir. Il révéla à Pierre le sens donc de la vision qu'il avait eue et lui dit d'aller sans hésiter chez Corneille. Mais Pierre savait que c'était interdit aux Juifs de se lier d'amitié avec des païens, des étrangers. Paul savait qu'en tant que Juif, il ne pouvait pas entrer dans la maison de Corneille. Mais il a écouté la voix du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a instruit et il est parti et une œuvre extraordinaire a commencé à partir de là. Dans le livre des Actes des Apôtres, pendant qu'ils étaient en prière, en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire, etc., par rapport à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit leur parla dans Actes 13, verset 2. Il s'adresse au responsable de l'église, il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Ils étaient déjà dans l'équipe. Il travaillait avec l'équipe de Jérusalem. Il dit, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils ont obéi, et ils ont envoyé, et ils sont allés, et une œuvre extraordinaire est née à partir d'Antioche. Il y a eu des conversions en masse. Quand on obéit, il y a des résultats qui arrivent, il y a des résultats qui se produisent dans la vie de l'Église, dans la vie des familles, dans la vie des villes et des nations. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. C'est une personne qui parle. Il y a des gens qui doivent exercer. Il faut exercer à écouter la voix du Saint-Esprit. On entend tellement de bruit dans ce monde. Des bruits de la politique, des bruits de ci, des bruits de... Toutes sortes de choses qui passent par nos oreilles. Allez discerner. Il faut demander le don du Saint-Esprit pour pouvoir discerner quand c'est le Saint-Esprit qui te parle, que tu saches que tu obéisses. Nous, il nous a parlé de plusieurs manières, de plusieurs manières. Il nous a parlé, nous, directement, il nous a parlé par deux, trois personnes différentes qui ne se connaissaient pas pour que nous puissions venir au Canada. Nous avons saisi, nous avons dit, ça c'est Dieu qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, que c'est le temps de partir. Il n'y avait aucune raison, je vais vous dire, il n'y avait aucune raison à cette époque que l'on quitte le Congo pour venir au Canada. Aucune. J'avais un très bon poste. J'étais directeur adjoint dans une banque. Elle avait un bon poste depuis 17 ans dans une grande entreprise de la place. Il n'y avait aucune raison. Mais nous avons discerné, dit, ça, c'est le Seigneur qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et j'ai dit à Donna, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Des personnes différentes, qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun contact l'un avec l'autre, toutes les personnes nous parlent d'aller au Canada, d'aller au Canada, d'aller au Canada. J'ai dit, mais attends. Et même d'autres avec des précisions incroyables. Donc, pour dire qu'il parle à nous d'écouter, à nous d'obéir. Le Saint-Esprit a aussi des sentiments. J'ai dit, c'est une personne, elle a aussi des sentiments. Et par des attitudes que nous pouvons afficher, par des paroles que nous pouvons dire, par les péchés que nous pouvons commettre, on peut l'attrister. On peut l'attrister. Quand je dis c'est une personne, ce n'est pas une personne comme moi, avec la chair et l'os comme ça. Non, non, c'est une personne parce qu'il il éprouve les mêmes sentiments que nous, les mêmes sentiments. Il peut être attristé, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, Éphésiens 4, verset 30, il dit, n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit, Thessaloniciens 5, verset 19. Donc, par nos attitudes, par nos paroles, par les péchés que nous commettons, on peut l'attrister, on peut éteindre, on peut le rendre inopérant dans nos vies. Comme j'ai dit, c'est un gentleman qui respecte nos choix, Je ne veux pas avancer, mais il ne va pas te forcer à avancer. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à le comprendre. Donc le Saint-Esprit a aussi une volonté. Il décide, il veut des choses, et nous aussi nous avons besoin des dons de l'Esprit, mais c'est lui qui les donne, c'est lui qui les distribue comme il veut. C'est là que je dis qu'il a une volonté. Si c'est lui qui distribue les dons de guérison à celui-ci, les dons de prophétie à celui-là, les dons de connaissance, paroles de connaissance à celui-là, c'est lui qui décide à qui il les donne. Nous pouvons demander, mais c'est lui qui décide à qui il les donne. C'est lui qui décide à qui il les donne. Donc, il a une volonté, notre rôle est de demander et nous attendre à lui. Et il va les donner, souvent il les donne à la mesure de la soif que nous manifestons. Il les donne à la mesure du désir que nous manifestons. Il les donne en voyant les motivations qui nous animent. Parfois, on demande des choses avec une mauvaise motivation. Je pensais, pendant que je préparais ici, je pensais à cet homme, ce magicien-là, qui, dans le livre des Actes des Apôtres, il voit que les autres sont en train de se servir des dons pour des guérisons, des ci et de ça, et tout, et il demande, il dit, mais moi aussi je veux avoir ce don. Et il a suivi les Paul et les apôtres, etc. Il dit, ah, moi aussi je vais avoir ce don. Mais toi, Paul peut ne pas le savoir. Paul peut ne pas le savoir. Mais le Seigneur sait quelle est la motivation qu'il y a. Lui, avec la magie, il gagnait de l'argent. On vient d'anéantir tout ce qu'il faisait, donc il perd l'argent. Il dit, bon, il faut que je trouve un autre moyen. Il dit, ok, moi aussi j'aimerais avoir ce don. Moi aussi j'aimerais avoir ce don. Comme des personnes qui disent, mais moi aussi je vais devenir pasteur. Parce qu'ils voient qu'un pasteur est béni, ils disent, moi aussi je vais devenir pasteur. Mais pour quelle motivation? D'abord, devenir pasteur, tu ne le demandes pas. C'est l'Église, c'est les serviteurs de Dieu qui voient l'appel qu'il y a sur ta vie et qui viennent te chercher. Dieu, Saint-Esprit, a une volonté et il donne comme il veut. Il distribue à qui il veut. Mais à nous de demander, mais veillons sur les motivations qu'il y a derrière, les motivations qui nous animent. Le Saint-Esprit transforme des vies. Non seulement il nous convainc de pécher, mais le Saint-Esprit transforme des vies. Mais il transforme les vies de ceux qui le désirent. Amen. Hein? Il transforme la vie de ceux qui le désirent. Comment il agit? Il va venir combler leurs faiblesses, il va combler leurs lacunes, en les revêtant de puissance. Une personne qui dit, moi je ne suis pas capable. C'est dans la Bible, il y a plein de gens, hein, plein de gens. Moïse, quand on dit, tu vas aller chez Pharaon, il dit, je ne suis pas capable, je ne sais pas. Il trouve tout un tas de raisons. Gédéon, je suis le plus petit. Mais attends, le Seigneur qui t'a choisi, qui t'a pointé, il sait qu'en te pointant, il va t'équiper, il va te donner ce qu'il faut. Quand ça vient de lui, il va t'équiper, il va te donner ce qu'il faut pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle il t'appelle. Donc, il transforme la vie de ceux qui le désirent, il va combler leurs faiblesses et leurs lacunes en les revêtant de puissance. Mais quand il parle, de sorte que quand tu parles, ben, le cœur des auditeurs était vivement touché. Ça a été le cas de Paul, ça a été le cas même des premiers apôtres. Rappelez-vous qui ils étaient quand Jésus les appelait. C'était des pêcheurs de poissons. Ben, pas tous, mais il y en a. Matthieu était un collecteur d'impôts, etc. Mais ils n'étaient pas des gens préparés, c'était pas des grands orateurs, c'était pas des gens qui, c'était pas des gens comme ça. Mais ces lacunes qu'il y avait en eux, là où ils se croyaient incapables, ils ont été surpris de voir. Paul, le jour de la Pentecôte, Pierre élevait la voix devant une foule, etc. Et il ouvre la bouche, il parle. Et il y a eu des conversions en masse, parce que revêtu de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit donne aussi l'autorité aux croyants. L'autorité, aller chasser des démons, on ne le fait pas comme un jeu. Hein? Les fils de Séva qui ont voulu dire, mais moi aussi je veux faire comme Paul. Et ils sont allés, etc. Et puis les démons sont sortis, ils les ont tapés, ils ont chassé, ils étaient tout nus, etc. Et on ne joue pas avec les choses de l'esprit. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne l'autorité aux croyants. Quand il te revêt de sa puissance, tu as l'autorité de chasser. Il te délivre de la peur. Il te donne la puissance, le courage de ne pas te taire, même devant des menaces. Même devant des menaces. C'est comme ça que des gens sont devenus victimes. J'avais dit victimes, mais ils ont accepté. Ils disent, mais non, je ne veux pas renier ma foi. Vous pouvez me tuer, vous faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas renier ma foi. Parce qu'il y a une puissance. En temps normal, on veut veiller sur soi, on veut rester en vie, on veut faire vivre encore des années sur cette terre, mais quand on te menace tout le temps de te jeter en prison, il y a des gens qui finissent par laisser tomber les bras et dire, bon, écoute, non, ma famille, là, ne me verra plus, mes enfants, je ne les verrai pas, papa, etc. Donc, il nous délivre de la peur et il nous donne le courage de ne pas nous taire, même sous les menaces. Je crois que nous allons avoir besoin plus que jamais, dans les jours, dans les mois à venir, sachant l'opposition qu'il y a de plus en plus devant l'Église, il va falloir que nous soyons revêtus de ce courage d'en haut, etc., pour pouvoir résister, pour pouvoir dire non. Ça, c'est ma foi qui me le commande. Si je dois mourir, je mourrai, mais c'est ma foi. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Pas beaucoup. Amen, amen. Amen, amen. Mais ce n'est pas vous, c'est pas vous. Moi-même, j'aurais peur. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous revêt de cette puissance, qui nous permet d'avoir ce courage de nous dresser contre tous ceux qui veulent s'opposer à son œuvre. Donc, voici ce que le Saint-Esprit peut faire. Je voudrais maintenant qu'on revienne deux minutes à la première Pentecôte. Il y a des moments forts, les jours de la Pentecôte et les jours qui ont suivi, etc. Le jour de la Pentecôte, il y a trois moments forts qui sont relatés dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Il y a vraiment trois moments forts que je voudrais souligner. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1 à 4. On ne va pas lire tout, mais on va lire Actes 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est une expérience spéciale, particulière, etc., qui est arrivée lorsque les gens étaient tous ensemble, c'est-à-dire réunis, c'est-à-dire d'un même accord, c'est-à-dire s'attendant à quelque chose. Sachant que le Seigneur avait dit, attendez que vous soyez revêtus. Ils étaient dans l'attente, ils étaient tous unis dans le même esprit pour attendre que ce moment arrive. C'est là que ça s'est produit et tout à coup, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux et il s'est passé des langues de feu, un vent impétueux qui s'est produit. Le souffle de l'Esprit, le vent de l'Esprit, si vous voulez, fait revivre même ce qui est mort. Fait revivre même ce qui a été détruit, ce qui a été desséché. En nous pensant à l'expérience d'Ézéchiel qui s'est trouvé devant la vallée des ossements desséchés. C'est l'Esprit du Seigneur qui a agi. Le souffle de l'Esprit, il dit, souffle le souffle de l'Esprit sur ses ossements et les ossements ont pris vie. Le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit, lui aussi vient, quand il descend dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient nous embraser, il vient nous embraser de sa présence et nous mettre au service. C'est pour le service que le Saint-Esprit vient nous revêtir. C'est pour le service. Ce n'est pas pour que nous puissions dire, moi aussi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais c'est pour le service. Ce que tu reçois, c'est pour le mettre au service. C'est pour que tu, en tant qu'envoyé, tu partes en mission où le Seigneur t'envoie. De manière qu'on soit donc continuellement bouillant. Encore une fois, je dis, ce n'est pas pour le spectacle, ni pour la gloire. Moi j'ai reçu, lui n'a pas reçu. Non. Ce n'est pas pour la gloire des personnes, on le voit souvent. Moi, je suis capable. Moi, j'ai des dons. Les autres, non, bien aimé, tu n'as rien fait. Tu n'as pas acheté ces dons. Tu n'as pas travaillé plus fort que les autres pour avoir ces dons. C'est la grâce de Dieu, le Saint-Esprit survenant sur vous, etc. Et vous avez été équipé. C'est un équipement qu'on vous donne, pas pour vous vanter, mais c'est pour le mettre au service de l'œuvre. Et on en a besoin aujourd'hui, plus que jamais. On en a besoin aujourd'hui, plus que jamais, parce que le monde fait tout pour nous vider, avec des problèmes. Le monde fait tout pour vider les chrétiens. Des occupations de toutes sortes, des distractions de toutes sortes. C'est pourquoi on doit chercher continuellement à être rempli. Tu es rempli, on te vide. Tu es rempli, on te vide. Il faut que tu reviennes encore pour aller boire source d'eau vive, pour que tu sois de nouveau rempli de cette même puissance, afin que tu demeures bouillant continuellement dans la vie chrétienne, débordant d'énergie. Donc le premier moment fort, c'est quand le Saint-Esprit est descendu et a revêtu les disciples. Le deuxième moment fort qui a suivi celui-là, donc il ne pouvait pas rester sans effet, ce n'était pas pour le spectacle que les langues de feu sont descendues sur eux, c'était pour les équiper, pour les changer, pour les transformer. Et au sortir de là, ils sont devenus de nouvelles personnes. L'apôtre Pierre a fait un discours extraordinaire, un long discours, un important discours. Il a voulu montrer que ce qui vous étonne, vous êtes en train de dire que les gens sont ivres en parlant en langue, etc. En plus, il parlait dans des langues, à ce moment-là, il parlait dans des langues connues de plusieurs. Donc les gens entendaient les langues, les gens étaient venus de partout, venus à Jérusalem pour la fête de Pâques, mais ils entendaient ces gens parler dans leur propre langue. Ils disent, mais ce sont des Galiléens, ces gens, comment est-ce qu'ils peuvent parler dans ma langue? L'œuvre du Saint-Esprit. C'est un miracle. Ils n'ont pas été à l'école. Ils ont parlé dans d'autres langues. Et les gens étaient étonnés. Ils disent, oh, ces gens sont ivres. Ils sont ivres dans ce qu'ils sont en train de faire. Et pourtant, c'était juste l'accomplissement de ce qu'avait dit le prophète Joël sur l'effusion de l'Esprit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y aura des dons, des visions, il y aura des dons, des prophéties, etc. etc. Le Saint-Esprit le fait en son temps. Dieu, l'apôtre Pierre a voulu montrer que Dieu a manifesté son amour, il expliquait exactement tout ce qui est arrivé, tout ce qui leur est arrivé. Il dit, mais vous nous voyez hier, mais vous nous voyez aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes. Et il parle de l'amour de Dieu, comment il a été manifesté en envoyant Jésus-Christ. Il leur a expliqué tout ça. C'est lui le Messie que vous attendiez. C'est lui le Messie que les prophètes ont annoncé, mais que vous l'avez rejeté, vous l'avez même tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et Dieu l'a. Et c'est pour lui que nous parlons, c'est pour lui que nous témoignons aujourd'hui. Donc il a parlé de l'œuvre de Jésus à la croix que comme étant le résultat de l'approbation de Dieu sur la mission que Jésus est venu accomplir. Il l'a ressuscité des morts et Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il est venu répandre sur nous. Amen. Le discours de Pierre a eu un impact parce qu'il était un discours inspiré du Saint-Esprit. Ce n'est pas une multiplication de paroles. Il n'était pas un homme éloquent, mais il était inspiré par le Saint-Esprit et les effets de ce qu'ils disaient ne se sont pas fait attendre. Il y a eu des conversions. Ils se sont mis à baptiser les gens tout de suite, etc., etc. Donc, le résultat, ça a été une grande moisson d'âmes. C'est toujours dans le chapitre 2, versets 37 à 42. Il y a une grande moisson d'âmes qui en a découlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disaient, ben, ils étaient saisis par la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient saisis et disaient, frère, que devons-nous faire? Donc, vous vous trouvez devant une situation, vous dites, que devons-nous faire? Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons que nous avons péché, mais que devons-nous faire? Alors, repentez-vous, etc., et faites-vous baptiser. Donc, il y a eu des repentances en série. En deux sermons, deux discours que Pierre a prononcés dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au chapitre 4, il y a eu 5 000, à peu près 5 000 conversions. 5 000 conversions. Et ce n'était que le début d'un travail qui allait embraser vraiment toute la région et jusqu'au moment où c'est arrivé à nous. Comme les gens avaient reçu le Saint-Esprit, ils obéissaient. Jésus a dit, allez, faites des disciples, baptisez-les, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on baptisait les gens. Des baptêmes ont été administrés parce que les gens obéissaient aux ordres du Maître, faites des disciples et baptisez-les. Et le Saint-Esprit a été répandu sur ceux qui répondaient à l'appel suprême. Et j'aime ce que l'apôtre Pierre dit au verset 39. Il dit la promesse, celle que Dieu a faite à l'époque par Joël. Celle que Dieu a faite. La promesse, il dit, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc le travail là ne se limite pas à ceux qui sont présents là où Pierre est en train de parler. Ce travail, cette promesse est pour ceux qui sont au loin. Mais il faut que ce message leur arrive aussi. Et quand ils entendront le même message, ils vont réagir de la même façon parce que la puissance du Saint-Esprit agit à ce moment-là. Ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, c'est pour ça que ça arrive jusqu'à nous. Ça nous concerne aussi. Ça nous concerne aussi, bien-aimés. L'Église, donc, a pris forme et l'Église s'est organisée à partir de ce moment-là. Ils se sont organisés autour de quatre axes, la persévérance, je crois que Cédric en a parlé, la persévérance dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain en souvenir de l'œuvre de la croix. Jésus a dit, faites cela en mémoire de moi pour ne jamais oublier, et les moments de prière. Ils ont continué, ils ont persévéré dans la prière. Voici l'impact que le Saint-Esprit veut avoir dans notre Église aussi. Amen. Nous nous battons, vous le savez, nous nous battons pour amener l'Église à comprendre que c'est important des moments de prière, des moments en commun. Je ne suis pas en train de nier qu'il y ait des gens qui prient à la maison. Il y a des gens qui prient à la maison. Mais il y a des moments de prière en commun qui doivent nous concerner tous. C'était le cas il y a à peine quelques années. Je ne dis pas ici seulement. Même quand j'étais à Montréal, même quand j'étais encore en Afrique, les églises se réunissaient je ne sais pas combien de fois par semaine. C'est allé en diminuant et quand on arrivait ici, on avait encore des réunions en semaine. À Montréal, on avait des réunions en semaine, même quand on est venu ici. C'est, au début de notre église, on était dans un petit local de l'autre côté de la rue, sur l'Ange Gardien. Un petit local qui, je crois que c'est la moitié de ça ici. Mais on était... Où est-ce que c'était le plus plein? C'était le mercredi. Dimanche, on se retrouvait 8, 10, mais le mercredi, on était 23, 25, parce que la place ne pouvait contenir que 30 chaises à peu près. Mais on était 23. Mais des gens venaient d'ailleurs, ça, je trouvais ça extraordinaire. Les gens venaient d'ailleurs parce que c'était le moment de prière. Dimanche, ils ne venaient pas, je ne sais pas, ils allaient peut-être dans leur église, mais comme dans leur église, il n'y avait pas de réunion de prière. Il y en a même ici des témoignages vivants ici. Dans leur église, on a supprimé des réunions de prière. Ils n'étaient pas membres de notre église, mais ils ont commencé à venir fréquenter le mercredi. Donc les gens de l'extérieur ont faim, soif d'avoir ces moments, mais les gens de la maison trouvent... Oh. Amen. Que le Saint-Esprit parle à l'église. Que le Saint-Esprit parle à l'église. C'est là que nous aurons un impact si nous marchons à la voie du Saint-Esprit. Je vais terminer, il est presque temps. En affirmant que dans l'histoire de l'Église, Dieu n'a jamais demandé à personne, il n'a jamais demandé à personne d'accomplir une mission sans l'équiper. Ça n'existe pas. Il n'a jamais demandé à personne d'accomplir une mission sans le revêtir de son Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Dans l'Ancien Testament même, ça se faisait. J'ai parlé tout à l'heure de Gédéon. Dit, tu vas aller combattre les Madianites. C'était un peuple nombreux, c'était une armée puissante avec une cavalerie puissante. Et tu dis, mais non, vous êtes trompé de personne. Il dit, je suis le plus petit de la plus petite tribu. Le plus petit de la plus petite. Comme on aime se minimiser. C'est vrai que par nous-mêmes, on n'est rien. Mais avec Dieu, on est capable de faire des exploits même. Quand on se soumet à sa volonté, on est capable de faire des exploits. Gédéon dit, je ne suis pas capable. Mais regardez ce qui est arrivé quand il a été revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Dit le livre de Juges, chapitre 6, verset 34. Revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il est allé combattre les Madianites avec une petite troupe. Il a essayé de rassembler des gens à un moment donné, jusqu'à 32 000. Dieu dit non, diminue encore le nombre, diminue encore le nombre, diminue encore. Je crois qu'à un moment donné, il s'est dit, mais attends, c'est une blague, c'est quoi? Les Madianites sont nombreux, 175 000, une année, 175 000, et Dieu a descendu le chiffre jusqu'à 300, parce que avec Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte. Amen. C'est sa puissance qui agit. Le Saint-Esprit en nous est source de victoire, est source de grande victoire à nous, simplement de nous laisser donc utiliser par le Saint-Esprit. Il a défait, avec 300 hommes, il a mis défait une armée de 175 000 hommes. Est-ce qu'il a eu à combattre? Non. Le Saint-Esprit qui a fait le travail dans les camps ennemis, ils se sont commencés à se rentrer dedans les uns les autres, facilitant le travail à ces 300 hommes de. Et comme je disais, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. C'est lui qui a inspiré comment il faut faire. Avec l'histoire des cruches, vous mettez des lampes, ça vous fait tomber tout. C'est une sagesse fine. Tu vas au combat et tu vas allumer des torches, tu mets dans une cruche, et puis tu tapes dessus, tu savais beaucoup de bruit, et les autres croient qu'il y a une armée puissante qui vient. Non. Dieu fait des choses extraordinaires. Pensez à Paul, l'apôtre Paul. Il a été appelé lui-même par Jésus sur la route de Damas. Mais comme il était appelé, le Seigneur a suscité un autre serviteur, Ananias, pour dire, il dit, va, sur la rue telle, il y a un homme qui s'appelle Paul, va le chercher, parce que il va être un instrument de valeur entre mes mains. Je l'utiliserai, il va aller parler pour moi auprès des rois, auprès de ci, auprès de cela. Mais utiliser un homme comme ça qui venait, qui était connu pour sa cruauté. Non, il tuait les chrétiens, il combattait les chrétiens. Et Dieu choisit celui-là pour l'utiliser. Amen. Et Ananias a hésité au début, il dit, non mais attends, mais moi si j'y vais, peut-être qu'il va me tuer. Et d'ailleurs, il venait pour faire du mal à l'église, là-bas où il venait, sur la route quand il venait. Mais va, dit le Seigneur, va, Ananias, va lui imposer les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il avait déjà reconnu le Seigneur comme son maître quand il est tombé. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit, ce que tu vas faire. Toi, tu vas dans la ville, tu vas attendre, il va se passer quelque chose. Et donc, va imposer les mains à Paul et il sera rempli du Saint-Esprit pour porter le nom de Jésus au loin. Et le Seigneur veut que nous soyons tous remplis de son esprit. Nous sommes une église, comme dans beaucoup d'églises, où des gens viennent de milieux différents, viennent de backgrounds différents. On ne sait pas trop ce que les gens ont reçu comme base dans leur vie chrétienne. On ne sait pas vraiment ce que les gens ont reçu comme base dans leur vie chrétienne. Mais il dit, tu as reçu Christ dans ta vie, j'ai reçu Christ dans ma vie. Tu as été baptisé, oui, j'ai été baptisé d'eau, j'ai été baptisé d'eau. Même sur nos fiches, pour demander de devenir membre, on pose des questions. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent non. Je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Désirez-vous avoir le baptême, être baptisé du Saint-Esprit? Plusieurs personnes disent oui. Il faut que ce désir soit sincère. Il faut prier pour que cela arrive. Pour qu'un jour cela arrive. Ça n'arrive pas à l'instant, comme pour Paul, etc. Quand on lui a imposé les mains, ça peut arriver tout de suite. On vous impose les mains, on prie pour vous, on prie à haute voix l'ensemble de l'Église, et les choses arrivent. Ça peut ne pas arriver. Ça peut arriver pendant que vous êtes sur la route, c'est déjà arrivé à d'autres personnes pendant qu'ils sont chez eux. Et donc, nous sommes une Église avec des backgrounds différents. Il est important que j'affirme ce matin, les bases, les fondements de notre foi chrétienne. Je voudrais affirmer encore ce matin que nous croyons en la personne du Saint-Esprit. C'est une des trois personnes de la Trinité. Nous croyons en la personne du Saint-Esprit. Nous croyons que Jésus baptise encore dans le Saint-Esprit ceux qui le désirent ardemment. Nous le croyons. Mais il faut que les gens le désirent ardemment. Nous le croyons. Nous croyons qu'il répand ses dons, les dons de service, les dons de puissance, etc. Il répand encore ses dons, les dons de guérison. Il répand des dons de vision, etc. Il répand des dons de prophétie. Il répand encore des dons aujourd'hui et nous sommes en droit de les demander pour qu'on soit équipés. Je l'ai dit tout à l'heure, nous demandons, mais il donne à qui il veut, comme il veut. Il y a des gens qui veulent les dons qui sont les plus visibles, donc qui produisent des effets sur les gens. Attends, non, c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. Je veux seulement le don là pour faire tomber les gens. Non, non, il n'y a pas un don pour faire tomber les gens, pas ça. Il n'y a pas, non. Je veux seulement le don de guérison. Tu peux le demander, mais il peut estimer que ce n'est pas nécessaire. Pour toi, ce n'est pas nécessaire pour toi parce que peut-être qu'il voit qu'il y a un danger que tu t'enorgueillisses en disant, moi, quand je pose les mains sur quelqu'un, il est guéri. Hein? Venez, venez à moi, je vais bâtir mon église. Non. Dieu nous donne parce qu'il nous connaît, il connaît notre cœur, il nous donne ce qu'il nous faut selon l'appel qu'il y a sur notre vie. Donc nous croyons qu'il répand encore ses dons. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 1er, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, et moi j'ajoute, il ne veut pas que nous ayons une mauvaise information en ce qui concerne les dons spirituels. Ça crée des divisions dans les églises. Ça crée des tiraillements au niveau du peuple de Dieu, et nous ne voulons pas que nous soyons dans ces situations là-bas. Nous le croyons parce que c'est dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la vérité. Amen. Parce que Dieu répand encore ses dons aujourd'hui, il n'a jamais cessé d'agir, parce qu'il veut que son Église soit efficace. Est-ce que vous croyez réellement, comme nous croyons, que Jésus baptise encore dans le Saint-Esprit, que Jésus répand encore ses dons au milieu de son peuple? Est-ce que vous le croyez? Amen. J'aime entendre ça. Est-ce que vous désirez être rempli, est-ce que vous désirez être renouvelé du Saint-Esprit ce matin? Amen. Alors, je vais vous demander de vous lever. Nous allons prier ensemble.